nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission Focus de Canal Académie. La langue française, tel est notre sujet. Et si chacun sait que les académiciens de l'Académie française veillent sur elle, la mettent en valeur, la défendent, l'enrichissent, bref, s'en occupent presque quotidiennement, on ne saurait être surpris de découvrir que les membres des autres académies, eux aussi, ont leur manière de voir et leur mot à dire sur la langue française. Après tout, pourquoi les scientifiques et les artistes, tout autant que les écrivains, ne se prononceraient-ils pas ? En voici la preuve, un académicien de l'Académie des sciences morales et politiques, scientifique de formation, ancien élève de l'École normale supérieure et de la section sciences, agrégé de mathématiques pour être plus précis, ingénieur, puis directeur général et président du conseil d'administration d'une des plus grandes entreprises françaises, Électricité de France. Vous avez reconnu Monsieur Marcel Boiteux, que j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio. Monsieur Boiteux, bonjour.
Bonjour madame.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez bien conscience que vous prenez un peu un risque de vous exprimer sur un sujet délicat et controversé de la langue française, la féminisation de la langue. Alors pourquoi prendre ce risque ?
Bien, parce que d'abord j'ai une formation logique et ce qui m'importe, c'est qu'on fasse en sorte que la langue française garde le maximum de logique. Si elle est logique, elle sera plus facile à apprendre à l'étranger et en même temps, elle sera plus précise. Et donc, mon souci, c'est de conserver une langue qui est suffisamment logique pour être concise. Ça, c'est un besoin de mathématicien. Et en même temps, comme j'ai pratiqué pendant de longues années la négociation, notamment avec les syndicats, on s'aperçoit très vite que pour arriver à se mettre d'accord sur une situation difficile, il faut arriver à cerner quelques équivoques. Il y a toujours un peu d'équivoque, sinon on ne se met pas d'accord.
Ou éviter, au contraire. Alors, oui, mais il y en a toujours un peu.
Alors, toujours un peu, si on n'est pas d'accord. Mais si on a trop, ça ne sert à rien.
Oui.
Et donc, il faut avoir une langue assez précise et assez souple pour cerner exactement les équivoques. Encore plus difficile que la prévision pure.
Donc, non seulement vous avez été président, directeur général, mais en plus, donc, un grand négociateur avec les syndicats et aussi professeur. Et dans le professorat aussi, je pense, professeur d'économie en plus, vous étiez.
Oui, j'ai effectivement enseigné l'économie à l'école des Ponts et Chaussées. Bon, là, il suffit d'avoir une langue claire. Et les subtilités de la féminisation de la langue ne préoccupaient pas beaucoup à l'époque.
Alors, pourquoi le fait de féminiser la langue française pourrait introduire une dangereuse équivoque ?
Bien, parce que je pense que si on ne fait pas attention, on peut compliquer beaucoup les choses. Et je vais prendre comme exemple un discours à peine modifié, un grand discours très connu des années 50, dans lequel on vous disait « Française, Français, je fais appel à vous ».
Et vous faites le geste en même temps, dommage.
A priori, c'est une faute de français de dire
oui.
Cela. Parce qu'en langue française, il y a trois genres, il y a le féminin, française, il y a le masculin, français, puis il y a le neutre, qui se dit comme le masculin. Et quand on dit français, on s'adresse à la fois aux deux sexes, parce qu'on s'exprime en neutre et non pas en masculin. Or, si on ne tient pas compte du fait que le masculin et le neutre se prononcent de la même manière, on se croit obligé de dire française, français. C'est une innovation qui va loin. Parce que du coup, maintenant, on vous dit tout le temps celles et ceux. Bon, mais faut-il dire celles et ceux qui sont belles, celles et ceux qui sont beaux, celles et ceux qui sont belles et beaux ? On perd la logique de la langue. Dès lors qu'ayant dit ça au début, on n'accorde pas ensuite les adjectifs.
Donc, oui, c'est ça. Mais est-ce que cela ne vient pas du fait que la langue française n'a pas véritablement un neutre reconnu comme dans le latin ou le grec, par exemple ?
Eh bien, il semble qu'on ait omis de l'enseigner, mais j'ai été heureux de voir que de grands académiciens très compétents en matière linguistique ont dit « mais il y a un genre non remarqué qu'il ne faut pas oublier ». Ce genre non remarqué que j'appelle neutre pour simplifier, parce que c'est plus facile à comprendre.
Oui, c'est un genre non marqué.
Un genre non marqué qui coiffe à la fois le féminin et le masculin. Et ce genre non marqué, eh bien, il est porté par le masculin.
Et c'est peut-être ça que l'on conteste, justement.
Oui, mais à ce moment-là, moi, je suis d'accord pour l'égalité des sexes. Si on veut que les femmes aussi aient droit à porter le genre non marqué de temps en temps, il faut décider que les années impaires, ce sont les femmes, c'est le féminin qui portera le genre non marqué. Alors, les années impaires, on dira, académiciennes, académiciens, vous toutes, Vous toutes qui êtes ici.
On ne s'en sortira pas, là, monsieur Boiteux. Ah ben, on s'en sortira
pas. On arrive
à
des phrases impossibles.
Donc, vous êtes pour qu'on laisse le masculin neutre emporter.
Si on ne reconnaît pas le neutre, l'homme, c'est neutre. Ça coiffe à la fois l'homme et la femme. Et quand on dit l'humanité, c'est les deux. Si on veut décomposer, il faut dire l'humanité et la féminité. Possible.
Non, il ne faut pas tomber dans le ridicule. Mais alors justement, il y a des mots, quand ils sont féminins, ça n'a pas le même sens qu'au masculin. Par exemple, chancelier et chancelière. Mais je crains que les jeunes générations ne sachent pas ce que c'est qu'une chancelière.
Il est possible effectivement que la chancelière, qui est une sorte de chaufferette pour se chauffer les pieds, les gens ont oublié que ça s'appelait une chancelière. Mais il y a d'autres cas de féminins plus ou moins heureux.
Ah oui, il y a cafetier par exemple.
Le cafetier et la cafetière. Mais à mon avis, si on veut vraiment féminiser les noms de métiers, on s'habituera à parler de la cafetière. Ce n'est pas tragique, c'est un peu ridicule, mais ça passera. Le problème, c'est plutôt qu'on a tendance actuellement, au titre de la féminisation de la langue, à faire n'importe quel féminin. Comme ça, à la foire d'empoigne. Et ça me paraît un peu choquant.
Mais n'est-ce pas parce que justement, les académiciens ne se sont pas prononcés encore, n'ont peut-être pas encore eu le temps de dire ce qu'il faut dire, s'il faut dire directeur ou directrice. Enfin, directrice, c'est un mot qui existe.
Oui, mais supposez qu'on disait lecteureux et pas lectrice, je ne comprendrai pas du tout.
Mais non, on ne comprendrait pas.
Quand on dit
pas.
Une lecteur, c'est pas possible. De quoi s'agit-il? Et donc, vous avez des féminins naturels, is, lecteur, lectrice, directeur, directrice. Mmh. Or, on est sur le point de dire maintenant directeureux. On se demande vraiment pourquoi.
Oui, absolument.
On se demande vraiment, proviseur, proviseuse, on va dire proviseureux. Comme si la terminaison féminine était une sorte de honte et de déshonneur. Mais que diable, les femmes n'ont aucune raison de considérer que les désinences qui les désignent sont déshonorantes.
Alors, Marcel Boiteux, le problème se complique avec les métiers et les titres.
Oui.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire masculin quand c'est la fonction et féminin quand c'est le titre. Alors, madame le ministre ou madame ministre?
Je crois que l'Académie française aurait pris position en disant qu'il n'y a pas lieu de féminiser, mais il y a une tellement forte poussée vers la féminisation. À mon avis, il faut fixer des règles. Moi, j'avais entendu parler, j'avais retenu comme règle qui me paraissait simple et de bon sens, qu'on peut féminiser les titres, on peut féminiser les métiers, mais pas les fonctions. Parce que les fonctions, on n'y reste pas forcément. On doit en dire, madame la ministre, c'est un titre. Vous qui êtes le ministre de l'Environnement, c'est une fonction. Mmh. Ça paraît, c'est naturel. Dans ces conditions, quand on parle d'une sentinelle, si c'est un homme, on n'a pas besoin de dire un sentinot. Mmh. Ça ne se fait pas d'ailleurs, en l'occurrence.
Non, Dieu merci.
Et donc, c'est assez logique de dire, bien finalement, si on veut féminiser vraiment les fonctions, les métiers ou les titres, il faut faire un choix. Et la règle qui semble la plus simple, conformément aux habitudes et aux mœurs qui tentent à s'établir, c'est de dire, on peut féminiser les métiers, boulanger, boulangère, ça se fait depuis très longtemps.
Oui.
On peut féminiser les titres. J'ai vu récemment qu'il y avait une maîtresse du Grand Orient, mais on ne peut pas, mais les fonctions, elles ont leur genre. Il y a la sentinelle, c'est une fonction, c'est féminin, même si c'est un homme. Il y a le ministre de l'Environnement, qui est une fonction, le ministre de l'Environnement, même si c'est une femme.
Voilà, donc pour que les choses soient claires, on laisserait au masculin la fonction.
La fonction,
qu'elle est provisoire, parce qu'elle est neutre, la fonction est neutre.
La fonction telle qu'elle est.
Oui.
La sentinelle, pas la peine de la mettre au masculin, c'est féminin. Bon,
oui,
même si c'est un mâle,
sûr.
On dira la sentinelle. Donc, il faut que les fonctions gardent leur genre d'origine, ça, il n'y a pas à y toucher.
Mm-hmm.
Par contre, si on veut vraiment féminiser, ce qui n'est pas indispensable, car dès lors qu'on reconnaît l'existence du neutre, et donc d'un genre qui est non marqué, il n'y a aucune nécessité de dire écrivain, écrivaine. D'ailleurs, la plupart des écrivains et écrivaines, si on leur dit « écrivain, je suis content de vous », ils comprendront que c'est, elles aussi sont
lésées. Bien sûr.
Parce que c'est du neutre et pas du masculin.
Donc, vous militez pour le neutre.
Je milite pour qu'on
réhabiliter,
reconnaisse.
Qu'on le reconnaisse. Voilà.
Officiellement, l'existence d'un neutre, quand on enseigne la grammaire, on dit qu'il y a trois genres et que le neutre est plus exactement le genre non marqué, il est porté par le masculin.
Masculin.
Ça se trouve être comme ça. Et si on trouve que c'est injuste qu'on veut le faire passer par le féminin, on ne peut pas, année impair, c'est, à la rigueur, on pourrait dire les siècles pairs. C'est les
Là, ça nous laisserait un peu de temps.
Mais c'est un peu compliqué quand même. Je crois qu'il faut admettre une bonne fois qu'il y a un genre non marqué, l'enseigner, et personne ne sera choqué, notamment les femmes, que dans certains cas, on s'exprime avec une allure de masculin qui est en fait le neutre.
Alors, il y a quelques années que j'ai appris la grammaire. Je ne sais pas ce qu'on enseigne aujourd'hui, mais je ne crois pas qu'on enseigne en effet l'existence d'un neutre, d'un genre non marqué porté par le masculin.
Et non, je ne crois pas.
Croyez-vous que votre confrère à l'Académie, M. Xavier Darcos, qui est ministre de l'Éducation nationale, partagerait votre point de vue, l'écouterait ?
Ben, peut-être. Après tout, je n'ai pas eu l'occasion de lui en parler. Mais je pense qu'effectivement, il vaudrait mieux enseigner quelques-unes de ces règles très simples que d'alourdir de mots grecs que les gens ne comprennent plus, la structure des phrases. Frappant de penser qu'il y a de plus en plus de désignations grecques sur la manière de comprendre un texte alors qu'on n'apprend plus le grec.
Ah oui, on compense,
c'est
peut-être.
C'est assez curieux, je dois dire.
Marcel Boiteux, avez-vous autre chose à dire pendant que le micro vous est tendu pour défendre cette langue française ?
Mais écoutez, si vous m'y poussez, je crois qu'effectivement, il y a des progrès à faire dans l'enseignement de la langue française. J'ai eu récemment à m'adresser à la gendarmerie pour une usurpation d'identité, enfin, disons un vol. J'ai été reçu par un gendarme parfaitement correct, courtois, au surplus assez beau gosse, qui m'a aidé à m'exprimer de telle manière que les choses se déroulent de façon aussi claire que possible, avec des phrases courtes. On disait « c'est pour le procureur ». Puis il m'a tendu le papier en disant « maintenant vous relisez et puis vous corrigez la faute d'orthographe ».
Ah bon, c'est-à-dire qu'il avait un langage parfait, mais une
alors,
écriture...
L'infinitif, le participe passé et l'imparfait, c'était au hasard. Tantôt ER, tantôt IT, tantôt au hasard. Je me dis, comment se fait-il que ce garçon qui est intelligent, qui a certainement fait des études, bon, il n'était pas officier, il était sous-officier, il a fait des études assez longues, qui a parfaitement compris la logique de la langue, ne connaissent pas l'orthographe. C'est vraiment au départ que sa formation a été...
On ne lui a pas apprise.
Malheureuse. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on lui a appris trop de mots grecs pour définir la structure des phrases et pas assez la base même de la logique de... Enfin, il faut enseigner la logique de la grammaire avant d'enseigner la logique des phrases.
Voilà, c'est sur cette conclusion de Marcel Boiteux sur ce conseil que nous allons terminer cette émission en vous remerciant, Monsieur Boiteux, d'être venu développer votre point de vue sur la féminisation de la langue française, ou plus exactement sur le besoin d'une langue française claire, logique et sans équivoque.
Exactement.
Merci infiniment.